Abraham Avinu a fait jurer, à Eliezer d'aller prendre, d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et donc, il y a discussion entre eux. Et à un moment donné, Eliezer dit, mais qu'est-ce qu'on fait si la fille elle ne veut pas venir? Est-ce que, puisque la fille, c'est la fille qui convient, est-ce que je vais amener Yitzhak là-bas? Si elle, peut-être que si Yitzhak vient et qu'il l'épouse, elle reviendra avec lui. Peut-être qu'elle ne veut pas venir tout avant d'être réellement épousée par Yitzhak, elle ne veut peut-être pas venir, elle ne veut pas aller rencontrer un type qu'elle n'a jamais vu, suivre un autre type qu'elle n'a jamais vu, etc. Peut-être qu'elle ne sera pas d'accord. Est-ce que je vais ramener Yitzhak, enfin, amener Yitzhak en à Ramnaraïm, là-bas, chez Lavan, pour chercher Rivka. Alors, Avram lui dit, Ishamer lecha. Garde-toi. Asvé shalom. Donc, il n'est pas question que tu amènes Yitzhak là-bas. Alors, comment ça va se dérouler? Alors, voilà. Hachem Eloke Hachamaim, Hachem Lekachani mi Beit Avi. Hachem, le Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père. Alors, vous voyez, ici, il dit Hachem Elokea Hachamaim. Avant, il avait dit Hachem Elokea Hachamaim Vaharetz. Il avait expliqué que c'est moi qui, vous vous souvenez, on avait vu, Hachilo dati oto levriotav, il était seulement le Kéachamayim. Kevanche odati oto levriotav, il est aussi le Kéaharetz. Et quand il se réfère à Hachem, quand il l'a fait sortir de la maison paternelle, à ce moment-là, Abraham n'avait pas encore fait connaître Hachem aux gens, aux créatures. Donc, il n'était que Elokei HaShamayim à ce moment-là. Il n'était pas encore. Donc, c'est Meduyak. Il dit pas Elokei HaShamayim Vaharetz. Il dit Elokei HaShamayim ici. Parce qu'à ce moment-là, il n'était que Elokei HaShamayim. Asher lekachani mi Beit Avi, ze Beito shel Aviv. Et ici, c'est assez logique. Il s'agit de la maison de son père. Et donc, Hachem, Abraham dit, voilà, il m'a pris de la maison de mon père. Moladti. Alors là, au lieu de dire c'est le pays où je suis né, Zeshkunato. Shkuna, aujourd'hui, Shkuna, c'est quasiment un quartier, quoi. C'est-à-dire, en fait, de là où je résidais, pour dire aussi. Parce que pourquoi il traduit Shruna, je ne sais pas exactement pourquoi on traduit de cette manière-là. Traduire par mon voisinage, comme ils l'ont traduit, ou bien de dire c'était c'est du quartier où je vivais, quoi, quelque part. Bon, c'est bien ça, le voisinage. Alors que quand on dit Meretz Moladti, le pays où je suis né, tout un pays, c'est pas. Ou alors, confondir, comme si on fait référence à sa naissance, alors ça peut pas. On peut pas parler de toute la Mésopotamie. On peut parler de où est-ce qu'on est. On est dans un certain quartier, dans une maison, dans un quartier. Je sais pas ce que ça veut dire en particulier ici. Ensuite, il dit. Vacher diberli becharan, Hachem qui m'a parlé à Charan. Charan, c'est l'endroit où ils se sont arrêtés avec son père et tout le monde, et où son père est resté, et d'où Avram est effectivement parti. Vacher nishbali el aptarim, et celui qui m'a juré, qui parle de. En fait, Vacher Nishbali m'a juré, puisqu'il y a eu une alliance, ils se sont jurés mutuellement, Avraham et Hachem, qu'ils allaient respecter l'alliance entre les morceaux, la fameuse alliance. Donc, celui-ci, Ou Ishlach Malacho le Fanecha. Il enverra son ange devant toi. Le texte aurait dû porter « Wishlach malach lefanecha ». Il enverra un ange devant toi. Il envoie son ange. D'abord, on entend ici qu'il y a donc un ange qui est particulièrement le sien. Il y a quelque chose de particulier. De quel ange s'agit-il ici ? C'est qui son ange? Parce que on peut pas non plus interpréter les choses en disant que Hachem n'a qu'un seul ange. Toujours quand Hachem, on parle d'Hachem, c'est toujours des myriades d'anges divers. D'abord, on sait que il y avait les trois anges qu'il a envoyés chez Abraham, donc on sait déjà qu'il a plus d'un ange. Bien plus qu'un ange. Pourquoi Malacho? Donc, c'est un ange qui est, à dire Avdosa, Areze Malach Mesuyam. C'est un certain ange. Donc, l'ange qui est fait pour ça. Un ange dont c'est la fonction. Et en fait, il ne lui a pas envoyé un seul, il en a envoyé deux. Zimen lo Akadosh Baruch Hu, shnei malachim. Deux anges. Pourquoi deux anges? Echad lehotzi et Rivka, un pour faire sortir Rivka, et un pour accompagner Eliezer. Comme il y a deux choses à faire, et comme vous savez bien, que les anges ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. En fait, en réalité, quand on dit que les anges ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois, d'une certaine manière, les hommes non plus, ils ne peuvent pas faire plus qu'une seule chose à la fois. Le cerveau, il ne peut pas faire deux choses à la fois. On a l'illusion qu'on fait deux choses à la fois, mais on ne les fait pas bien. Pour faire les choses bien, le cerveau il peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc, quand on s'investit vraiment, quand on dit bechol levavcha ou bechol nafshcha, ça ne peut être que si tu t'investis entièrement là-dedans. Si tu fais ça et aussi encore autre chose en passant, ni l'une ni l'autre chose ne sont bien faites. Elles sont peut-être faites suffisamment bien. Mais le cerveau, il n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Contrairement à ce qu'on croit. C'est une illusion qui, en fait, nous trompe. On peut presque dire c'est une serra, parce que du coup, on ne fait pas bien ce qu'on devrait faire. En tout cas, il lui envoie un ange pour une chose, un ange pour l'autre chose. Certains disent que Malacho, son ange, que c'est Métatron, qui est l'ange d'Hachem, parce que c'est l'ange qui a une fonction particulière auprès d'Hachem. On va revenir tout de suite sur Métatron. Donc il lui envoie, alors, Echad le Otsi et Rivka, l'un pour sortir Rivka. Le problème, c'est quoi faire sortir Rivka? D'où il faut la faire sortir? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a certains qui disent que, en fait, c'était pas l'habitude de Rivka de sortir pour aller puiser de l'eau. Mais, donc, Hachem a envoyé un ange qui va provoquer une situation dans laquelle c'est elle qui va sortir pour puiser de l'eau. D'autres disent que elle allait sortir, mais il fallait la faire sortir au bon moment pour que Eliezer puisse la voir. Et d'autres disent qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit de faire sortir Rivka de sa famille. Ça veut dire que où est-ce qu'elle va trouver l'énergie et comment est-ce que ils vont accepter de la donner? Parce qu'effectivement, ils vont accepter, en disant même que bon, ça a été décidé au ciel, quoi. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, donc ils sont d'accord. Dans la bouche de Laban, pas évident. Là aussi, il faut un malach pour ça. Et ensuite, il faut un malach pour protéger Eliezer. Donc, il va faire en sorte que Eliezer va avoir, on va le voir, Kfitzat Aderer, c'est-à-dire que le temps, en quelque sorte, un laps de temps très court va lui permettre de franchir toute la distance entre chez Abraham et chez Laban. Il va faire ça en un seul jour. Et ensuite, il faut le protéger, puisque ils vont vouloir le tuer. Betuel et Laban veulent tuer Eliezer pour faire main basse sur tout ce qu'il a. Et donc là aussi, il va falloir le protéger. Ensuite, il va falloir le protéger de façon générale durant tout le chemin. Donc Abraham lui dit, au fond, Hachem qui a commencé à me sous ce processus de me singulariser, de me permettre de mettre au monde celui qui va être mon successeur et qui va permettre au clan d'Israël de commencer à se construire, il va pas me laisser en plan là. Donc il va t'aider. Mais si vraiment ça marche pas, si vraiment Vimlote ove Aisha, et si la femme ne veut pas te suivre, ok, tu es dégagé de toutes tes obligations, mais en tout cas, Rak et Beni, l'Otachefcham. En tout cas, mon fils, Yitzhak, tu ne le ramèneras pas là-bas. Et comme c'est marqué Rak et Beni, et que Rak c'est un miout, alors on dit, il n'y a que Yitzhak qui n'a pas le droit d'y aller. Parce que comme tout le monde sait, Yaakov va y aller. Donc ce n'est pas qu'on n'a pas le droit d'y aller. Yitzhak ne peut pas y aller. Yitzhak ne peut pas y aller parce qu'il a une Ola. Vous souvenez, Yitzhak a vu depuis le moment où Avram l'a pris pour le sacrifier, il a un statut de Ola. Et une Ola ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Pas sortir des limites d'Eretz Israël. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle c'est pas Yitzhak qui, pourtant, il avait 37 ans à la Akeda, on est juste après. Il peut y aller tout seul, non? Chercher une épouse. Oui, il aurait pu. Si on prenait une Cananéenne, il aurait pu aller choisir la Cananéenne qu'il voulait. Sur place. Mais puisqu'il s'agit d'aller en dehors des restes Israël, il peut pas y aller tout seul. Et donc, il faut Il faut y a, il faut aller le faut qu'il y aille. Alors c'est intéressant parce que qui est-ce qui y va? C'est Eliezer. Mais au moment où Eliezer où le Midrash nous parle de Eliezer comme étant celui qui va aller chercher, on présente Eliezer comme l'alter ego d'Abraham Avinu. D'une certaine manière, c'est comme si c'était Abraham Avinu qui y allait. Seulement lui, il peut pas, peut-être, comme Hachem l'a fait sortir de là-bas, il ne peut pas y aller. Mais on envoie, enfin, il envoie celui qui a le même rayonnement que lui, qui maîtrise son Yetzirara comme lui, et qui est le gestionnaire de tous ses biens, c'est quasiment lui-même. C'est comme si on avait Abraham qui allait chercher une épouse pour son fils. D'ailleurs, la halakha, elle est que une mitzvah de marier son fils. Alors, il peut s'acquitter, bien sûr, de sa mitzvah en envoyant Eliezer. Mais d'une certaine manière, en l'occurrence, ici, c'est pas, il n'envoie pas un chaliard quelconque. Il envoie quelqu'un dont le midrash nous dit à ce moment-là, finalement, en quoi est-ce que c'est important de nous faire tout ce portrait d'Eliezer comme étant quasiment Abraham Avinu? À ce moment-là, c'est bien qu'on veut nous faire entendre que c'est quasiment Abraham Avinu qui va le chercher. Une espèce de, presque un double d'Abraham Avinu qui va le chercher. Tel qu'il est présenté. Bon, on aurait pu faire l'éloge d'Eliezer à un autre moment qu'au moment où il l'envoie pour chercher Yitzhak. Et c'est ici que le Midrash nous a fait cette description de Eliezer comme étant quasiment à... il a le même rayonnement que Abraham. Il a la même maîtrise de lui-même, maîtrise de son Yetzerara, même maîtrise que qu'Abraham Avinu. Donc, c'est très certainement significatif. Alors, l'histoire de Malacho, on voit son Malach. Certains veulent dire que Abraham Avinu, il avait cette présence, cette relation de proximité avec Hachem, et cette, ça veut dire présence, proximité avec la Shrina, et quand la Shrina était là, le Métatron était toujours là. Le Métatron, c'est une espèce de fondé de pouvoir. Donc, c'est lui qui, on le sait par ailleurs, que c'est lui qui gère le monde d'une certaine façon en se fiant, en s'appuyant sur la conduite d'Ebné Israël et en ne tenant compte dans cette conduite que du positif. Il ne tient pas compte du négatif. Donc le monde est géré en fonction de la conduite d'Ebné Israël. Et le monde avance en quelque sorte en tenant compte de ce que font l'Ebné Israël de façon positive. Avec toujours cette idée que, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qu'à un certain niveau, le mal n'existe pas. Il existe essentiellement comme absence de bien. Vous vous souvenez, d'accord, cette espèce de... Donc, il y a une trace du mal, mais pas parce qu'il y a le mal agit vraiment, mais parce que pendant qu'on a fait le mal, on n'a pas fait le bien. Et ça, ce manque-là, qui se ressent dans la gestion du monde. Donc là, il lui dit, il enverra son malach. Ce qu'il faut comprendre, Avraham, il dit, il enverra son malach et il lui en envoie deux. S'il avait dit, il enverra un malach, on aurait compris, ok. Un malach, et un malach pour ceci, un malach pour cela. Mais malacho, son malach. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et probablement que Métatron lui-même, c'est lui qui va, en promenant, disons, prendre deux malachim auxquels il va assigner la tâche de faire sortir Rivka et de protéger Eliezer. Alors, le texte continue. Un nouveau chapitre. Vaikach Eved Asara Gmalim Migmale Adonav. Le texte dit, l'esclave a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son maître. En quoi est-ce que c'est important? S'il avait été dans une agence de location de chameaux et qu'il avait loué 10 chameaux, ça ne marcherait pas. Pourquoi c'est important? A priori, c'est presque trivial. S'il prend des chameaux, a priori, c'est les chameaux de son maître. Et sinon, on devrait nous dire où il s'est procuré les chameaux. À quelle agence il a acheté les chameaux, il a loué les chameaux. Alors, en quoi est-ce que c'est important de nous dire que ce sont les chameaux d'Abraham? C'est, dit le Midrash, parce que Gmalav shel Abraham avinu ayu nikarim bechol makom shayu yotzim zmumim. Les chameaux d'Abraham avinu, ils étaient toujours reconnaissables où qu'ils se trouvent, parce que ces chameaux étaient muselés. Avraham Avinu, vous vous souvenez, c'est déjà le problème d'Avraham Avinu avec Lot. Les bergers de Lot, ils laissaient leur troupeau manger dans les champs qui ne lui appartenaient pas. Et Avraham Avinu était très à cheval sur cette question. Et donc, il voulait éviter que les chameaux mangent dans des champs qui ne lui appartiennent pas. Donc, il muselait ses chameaux. Et comme semble-t-il, ce n'était pas du tout la façon de faire de tout le monde, ses chameaux, à lui, étaient reconnaissables comme tels. Donc, c'est intéressant de voir que la Torah, on part pour quelque chose de très important. Bon, il part pour chercher une femme pour Yitzhak. Dans le détail, c'est-à-dire, les chameaux qu'on prend, c'est des chameaux qui sont muselés. On ne peut pas dire, finalement, ils partent au loin. Non. Même dans le détail, ce sont les chameaux d'Abraham, et donc ils sont muselés. Et puis, deuxième chose, c'est « V'kol tuv adonav beyado ». Donc, tous les biens de son maître était dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, il ne peut pas transporter tous les biens d'Abraham. Alors, il a, Maram Chelbo dit, Zou, c'est diatiki. Alors, ici, j'apprends que ça s'appelle une diathèque. C'est des dispositions testamentaires. C'est-à-dire, il y a un papier pour montrer que Yaakov, que Yitzhak est l'héritier unique d'Abraham. Donc il va montrer que Isaac a les moyens d'entretenir, comme il se doit, la femme qu'il va épouser. Et à part ça, évidemment, il y a 10 chameaux. Bon, je pense, évidemment, il y a une escorte. Ils sont pas, il n'est pas tout seul. Et puis, il transporte des cadeaux, ce dont on a besoin pour un long voyage, même si ce voyage, finalement, il n'a pas duré longtemps. Et on nous dit, Vayakom, littéralement, il s'est levé. Vayelech el Aram Naharaim. Il est parti pour Aram Naharaim, qui était la résidence des parents de Rivka. Vayelech el Aram Naharaim. Avitzrak Amar ben Yomo. Idate de Rav Yitzhak, c'est-à-dire Rav Yitzhak dit, le même jour, c'est la façon de Rav Yitzhak d'interpréter les choses, il fait la même chose au sujet d'Avraham Avinu, « Vavo ayom el ha'ayin » Ayom yasati ve ayom bati. Je suis parti de chez Avraham et le même jour je suis arrivé. Adaudirtiv, irashta eretz, tsamta rafa shvarea. Qui matin. Alors, Irashta, c'est un pasouk dans Teilim. Irashta Eretz. Rash, c'est un tremblement de terre, c'est-à-dire c'est fendre la terre. Un tremblement de terre, c'est un bouleversement de la terre. Ça a eu lieu au temps d'Abraham Avin. Tsamta, c'est Bimé Eliezer. De la même manière, tu as déchiré la terre au temps d'Eliezer. Et Refa Shvarea Bime Yaakov, c'est-à-dire répare les fissures, ces fissures au temps de Yaakov. Kimata Bime Yishbi Venov. Kimata, elle penche, elle vacille, au temps de Ishbi Benov. Adaudirtiv, qui c'est ce Ishbi Benov, c'est écrit dans Shmuel Bet. C'est écrit que Ishbi Benov, Asher, puis l'idée à Rafa, etc. Vayomer là à côté de David. Il avait un projet de tuer David. Anif le magné, Kafatz David, la chorav, Tzmania sar amin, Zenit yaremise. Zenit yaremise, l'Omar. Donc chacun avait peur de l'autre. L'un a dit, In lachoroi kafats kedin. S'il a pu faire un saut pareil en arrière, alors, le kumoi mai, qu'est-ce qu'il va faire quand il va sauter en avant? Et l'autre avait peur en disant, Im de magne. Si avec son bouclier il m'a repoussé de cette manière-là, comment est-ce que je vais pouvoir le vaincre? Donc, il y a un Philistin d'un côté et David de l'autre. Et alors, à ce moment-là, David s'est dit, Alvai, avali, chad, mivne, achati, pisiaeni. Si seulement il pouvait avoir l'un des fils de ma sœur qui vienne m'aider, Miyad, Vayahazar lo Avishai ben Tseruya, immédiatement, justement, un de ses neveux, Avishai ben Tseruya, il est venu, l'achore tara ava kaem, et maha. Donc, immédiatement, il est venu à son secours. Alors, le Midrash, il demande quoi? Il était derrière la porte. Il attendait. Ça veut dire, comment ça peut être immédiat? Alors, Rabbanan Amré, Afilo Aya Besof Haolam. Les Chachamim ont dit que même s'il était au bout du monde, et Tissot HaKadosh Baruch Hu, Fevio Berefaim. Hachem l'aurait fait voler quelque part. Et en un instant, il aurait été là. Pourquoi? Tzadik, Omed ou Mitztaer, pour que le tzadik, c'est-à-dire David, ne souffre pas. Ou même qu'il se fasse du souci. Daoudirtiv, Vayazar lo Avishai ben Tsruya, Vayach et Aplishti, Vayamiteu, il a frappé le Philistin, il l'a tué, Aznishbeu, Anche David lo, Les morts, l'otetse od itanu la milchama, velo trabe et ner Israël. Immédiatement, les gens ont dit, quand ils ont vu cela, ils ont dit, plus jamais, Qu'est-ce que c'est? L'autre, tu viendras plus en guerre avec nous. L'autre, Rabbe, Etner Israël. On veut pas que la lumière d'Israël s'éteigne. Insupportable de penser que tu pourrais être en danger. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire-là? Parce que, c'est quoi le thème de ce paragraphe du Midrash? C'est Kvitsat Haderech. C'est le fait que le chemin qui devait prendre quelques jours s'est fait en un jour. Donc il y a ce qu'on appelle Kvitsat Haderech. C'est comme si le but qu'on voulait atteindre était venu à la rencontre d'Eliezer. Donc, c'est comme s'il y a eu, si vous voulez, ou comme dans les images qu'on a dit, tu déchires la terre et tu recolles, tu l'arranges de telle manière que les deux, le point de départ et le point d'arrivée, quasiment, soient tellement proches qu'on peut franchir cette distance en un seul jour. Alors, c'est dit sur Abraham Avinu. Quand il était en chemin, lui aussi, il a eu Kvitsat Haderech. Les enjambées d'Avraham Avinu étaient gigantesques. Pour qu'il n'y ait pas de temps, ça ne prenne pas de temps. Alors, on peut se demander, bien sûr, en quoi est-ce si important que ça ne prenne pas de temps? Toujours, on dit toujours, Yeshua Hashem Ke'erefaim. Le salut d'Hashem, il vient en un instant. La caractéristique d'Hashem, c'est qu'il est au-dessus du temps. Et donc, quand on parle d'intervention divine, alors ça ne doit pas prendre de temps, puisque pour lui, il n'y a pas, il est au-dessus du temps, il n'y a pas de temps. Le temps, il dépend de chacun d'entre nous. On le vit différemment. On a déjà vu sur Yaakov Avinu qui, quand le temps qui passe Travailler pour obtenir Rachel, pour lui, c'est quelques jours. Alors que ça dure 7 ans. En réalité, aujourd'hui, en science, la notion d'un temps absolu, ça n'existe absolument pas. Le temps, c'est le. À chaque endroit, il y a un temps. Un autre temps. Le temps, il est morcelé. Il n'y a pas de continuité du temps. De toute manière, c'est les quantas de temps. Mais ça, c'est déjà dans Rambam, dans le Moreh Nevouchim, que le temps est comme ça. Mais bon, il y avait déjà d'autres aussi qui pensaient comme ça. Mais c'est dans le Rambam, dans le Moreh Nevouchim. Et le temps, il n'est pas le même. C'est-à-dire que si vous mettez une horloge sur la table et une horloge par terre, elle ne marque pas la même heure. Parce que les masses, les influx, ralentissent le temps. La masse ralentit le temps. Donc la masse de la Terre, ou bien la masse de la Lune, ou la masse de. Bien même votre masse, à vous, ralentit le temps. Donc, l'environnement, quelque part, chaque environnement, mini-environnement, détermine un temps. Donc, ça n'a pas de sens de parler du temps. Alors, évidemment, pour Hachem, il n'y a pas de temps. C'est cette idée-là. C'est la raison pour laquelle ça doit se faire sans prendre de temps. Bon, aujourd'hui, ben, c'est encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, quelque part, en voyant que ça n'a pas pris de temps, quelque part, Eliezer sait qu'il est dans le bon chemin, sur la bonne voie. Alors, on montre que ça a été fait pour Avraham Yitzhak Yaakov, c'est fait pour David HaMelech, c'est pour Avraham, c'est fait aussi sur Eliezer, qui est son alter ego, c'est fait aussi pour David HaMelech. Et donc, il y a cette idée que quand ce genre de tzadikim adresse leur prière à Hachem, voilà, c'est immédiatement fait. Parce que Terem Ikraou, avant même qu'ils ont terminé, on va le voir, avant même qu'ils aient terminé de parler, j'ai déjà répondu. Parce que ça ne doit pas prendre de temps. Parce que chez Hachem, il n'y a pas le temps. Vayavrech Hagmalim, il s'est occupé des chameaux, il les a nourris, il les a boire, etc. Et il les a fait s'asseoir, en fait, je ne sais pas comment on dit, s'agenouiller. Et puis, il était là, c'était le Et Erev, le Et Tzetashavot. Il est arrivé au puits. Le soir, au moment où les femmes qui allaient puiser sortaient pour puiser. On ne puise pas dans la journée, il fait trop chaud. On puise au moment quand ça devient plus frais. Bon, est-ce qu'on a besoin que la Torah nous dise tout ça? Alors le Midrash dit, Yamar Avuna, quand un homme va pour trouver une épouse, Veshama Kalklavaya Menafrin, il entend les chiens aboyer, ou Metsit Ma'inun Amarin, il doit écouter ce qu'ils disent. les chiens aboient, mais c'est aussi tout ce qui se dit. Le soir, on entend le bruit, on entend les paroles. Alors ici, on nous dit, il est allé l'être, erev l'être, c'est à Shavot. Il est allé il est au puits, il écoute ce qui se dit. Donc il faut tout écouter, y compris les aboiements. En fait. Peut-être que ce qui se dit là, sous ces bruits qui peut-être que ça, ça lui donnera une idée, l'inspirera pour chercher, pour trouver une femme. Quand Eliezer a vu les femmes qui sortaient pour puiser, immédiatement, il a installé les chameaux près du puits. Ou là, peut-être que il y aurait une des femmes qui puise, qui lui proposera d'abreuver ses chameaux. Et comme vous savez, c'est le test qu'il a inventé pour choisir la femme de Yitzhak. Il choisit en utilisant cette idée de bon, voilà, elles sont au puits et donner l'occasion de se manifester comme quelqu'un de généreux. Alors le Midrash continue, c'est donc la paracha suivante du Midrash. Il dit, ça veut dire il prie, Vayomer, Hashem, Elokei Adoni Avraham. Il s'adresse à Hashem et je pense qu'il considère aussi qu'Hashem est son Dieu à lui. Mais comme il est le représentant d'Abraham ici, même devant Hachem, il se présente comme le serviteur d'Abraham. Et il demande en tant que serviteur d'Abraham. Elokei Adoni Avraham, Akreina lefanai hayom. Il lui demande, fais en sorte que je la rencontre aujourd'hui. D'une certaine manière, puisque tu fais que tout se déroule dans la même journée, une espèce d'unité de temps, mais c'est plutôt une unité de temps qui indique qu'il n'y a pas de temps, quoi. Tout se fait le même jour. Akré, ça veut dire, parce qu'un mikré, fais advenir, fais en sorte que je la rencontre aujourd'hui. Alors, comme toujours, le Midrash, il part d'un pasouk différent pour interpréter ce pasouk-ci. Et là, en l'occurrence, il part d'un pasouk du Navi Yeshaya. Le Navi dit Mi bachem yire Hashem. Qui parmi vous craint Hashem? Shomea bekol avdo. Qui écoute la voix de son serviteur. Ça, c'est le début de la citation du verset. Ibachem irei Hachem. Qui parmi vous craint Hachem? Bon, là, le Midrash dit, celui qui craint Hachem, c'est Abraham. Quand Abraham a vu, après la Akeda, Hachem lui a parlé, et il lui a expliqué qu'il n'avait pas besoin, il ne voulait pas qu'il aille plus loin. Il lui dit, je sais que tu crains Hachem. C'est une crainte révérentielle. Et que tu, comme il lui dit, velo chasarta, tu n'as pas hésité un seul instant. Tu es prêt à me donner ton fils. Jusqu'où allait la Yirat Shamaim d'Avraham Avinu? Et alors, c'est la deuxième partie du verset, là, qui pose un peu problème. Parce que le verset dit, Shomea bekol avdo. Il écoute la voix de son serviteur. Ok, bon, ça veut dire, on comprend pas très bien, parce que la première partie dit, Mi, qui est-ce qui craint Hachem? Shomea bekol avdo. Ça vient dire que Hachem écoute. Qui est-ce qui craint Hachem? Qui est celui qui écoute la voix de son serviteur, a priori? Alors, Hachem Shama, Akadosh Baruch Hu, le kolo shel avdo. D'accord? Hachem, Akadosh Baruch Hu, pardon, a écouté la voix de son serviteur. Alors, il traduit Asher Shama Akadosh Baruch Hu bekolo shel avdo. C'est Akadosh Baruch Hu. Le Midrash dit, ils ont traduit la voix d'Akadosh Baruch Hu à son serviteur. C'est pas très clair que c'est comme ça qu'il faut traduire. Ce qu'on dit, c'est qui le... Asher alach chashechim, le verset continue, qui marche dans l'obscurité, dans le chosher, les ténèbres. Sheba mi Mésopotamia mechavrotea, qui vient de Mésopotamie et des alentours. Velo haya yodea echan. Et il savait pas où il est, en quelque sorte. Que Adam shehu sharui bachosher, comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Ve'en nogalo. Et il n'a pas de... Il n'y a pas de lumière, il n'y a aucun éclairage. Alors, qui est-ce qui l'a éclairé? Akadosh Baruch Hu meir lo b'chol makom she'aya olech. Akadosh Baruch Hu l'a éclairé partout où il allait. C'est marqué, Yiftach, Yoshem Hashem, Vishaen be'elokav. Il a confiance dans le nom d'Hashem. Et il s'appuie sur son Dieu. C'est marqué, « Umatzata et levavo, neman lefanecha. » Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Ça, c'est un passou qui concerne Avraham Avinu. Alors, qu'est-ce que fait le Midrash? Il dit, celui qui craint Hachem, c'est Avraham Avinu. Shomea Bekolavdo, a priori, si on parle de, on devrait parler d'Avraham Avinu. C'est Avraham qui écoute la voix de son serviteur, a priori, dans le verset. Mi, c'est le sujet. Mi Yire Hachem, Shomea Bekolavdo. Alors, au lieu de dire que c'est celui qui écoute la voix de son serviteur, qui porterait sur Avraham, a priori. Alors, on dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui écoute la voix de son serviteur. Il écoute la voix de son serviteur qui marche dans les ténèbres, qui vient de Mésopotamie, à des environs. Mais que ça veut dire? Il vient de Mésopotamie et des environs. Il ne vient pas de Mésopotamie maintenant. A priori, Elazar, il vient justement de... Il vient de Beersheba, il vient de là où était Abraham Avinu. Ça veut dire Sheba, mais Mésopotamia. Et il ne sait pas du tout où il est, en quelque sorte. Personne ne lui a ne l'a éclairé. Akadosh Baruch Hu l'a éclairé. Mais par quel mérite est-ce qu'il l'a éclairé? Il a éclairé parce que lui, il a fait confiance en Hachem. Parce qu'il était fiable par rapport à Hachem. La Mésopotamie, là-bas, c'est Aram Naharaim. Ça veut dire ici, on parle de celui qui... Voilà, qui a craint Hachem. Hachem a écouté sa voix, bien que, et non seulement il était dans l'obscurité, il venait de Mésopotamie, il venait d'un pays complètement idolâtre, il ne savait pas du tout où il était, comme quelqu'un qui est complètement perdu parce qu'il est dans la plus grande obscurité. Bon, mais... Il a quand même, il a fini par s'en sortir, mais qui l'a éclairé pour qu'il s'en sorte? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a éclairé. Et il a continué de l'éclairer partout où il allait. Et pourquoi il l'a éclairé? Parce que Avraham avait confiance en lui. Et il s'est appuyé sur Elokav. C'est marqué, effectivement, tu as trouvé que son cœur était fidèle devant toi. C'est-à-dire, pourquoi c'est marqué Vishain Be'elokav? Il s'appuie sur son Dieu. On aurait dû dire Iftar Beshem Hashem, Vishain Be'elokim. Vishain Be'elokav. Il s'appuie. Sur son Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est son Dieu? C'est-à-dire c'est qu'il a une relation avec Hachem. Une relation personnelle avec Hachem. On ne parle pas de Elohim, le créateur du monde. Il s'appuie sur celui avec lequel il a une relation. Et du coup, c'est une relation dans laquelle on peut parler d'être fidèle. Fidèle, c'est c'est qu'il y a eu entre eux des arrangements. Ils se sont promis certaines choses, et Abraham s'est avéré être quelqu'un de parfaitement fiable dans sa relation avec Hachem. Alors, c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, on dit, il vient de Mésopotamie, il était complètement paumé, et Hachem l'a éclairé, et on dit, il l'a éclairé parce qu'il lui a fait confiance. Mais la confiance, on peut parler de confiance quand, par exemple, Avraham Avinu était à la hauteur de l'alliance qu'il avait avec Hachem dans les morceaux, par exemple, Ben Abtarim. Mais ça, c'est bien plus tard. Donc, quelque part, on a l'impression que ici, le temps est mélangé, quoi. C'est-à-dire que Hachem l'a éclairé quand il venait de Mésopotamie, quand il était dans l'obscurité complète. Hachem l'a éclairé parce que plus tard, il va lui faire confiance. Parce que quelqu'un, Hachem a tenu compte que il allait être quelqu'un de fiable. Mais ceci, ça n'arrive que plus tard. Il n'y a pas de différence pour Hachem entre le passé et le futur. D'abord, il n'est pas soumis au temps du tout. Donc le fait qu'Abraham s'avère être à un moment donné fiable, même si c'est pour nous, ça se déroule après qu'Hachem l'ait pris en charge, ça n'a pas d'importance. Pour Hachem, il en tient déjà compte. Il tient compte de cela. Ça vient du fait que Hachem est en dehors du temps. Et pour des gens qui acceptent de vivre à ce niveau-là, vivre à un niveau qui est en dehors du temps, d'une certaine façon, ou tout en dehors du temps ordinaire, en tout cas. Alors, effectivement, il n'y a pas de différence entre le présent, le passé, le présent et le futur. On n'est pas dans le temps, vraiment. Sinon, c'est quasiment illisible. C'est une lecture. Tel qu'ils l'ont traduit dans le Verdier, là, écoutant la voix de son serviteur, la voix d'Akadosh Baruch Hu à son serviteur, je n'arrive pas très bien à voir comment ils ont traduit ici. Mais si on prend ce qu'ils disent là, donc ils ont retourné, au lieu de la voix du serviteur, c'est la voix d'Hachem à son serviteur. Je suis pas tout à fait certain que je m'y retrouve pas vraiment dans la traduction qu'ils ont choisie là. Je ne vois pas le retournement dont ils parlent là. Sauf que ce qu'il faudrait dire ici, c'est que à partir du moment où on a dit que celui qui était Yiré Hachem, c'est Abraham, alors c'est aussi lui, a priori, qui écoute la voix de son serviteur. Abraham écoute la voix de son serviteur, elle écoute la voix d'Éliézer. Mais le Midrash dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui écoute la voix de son serviteur. Alors qu'a priori, la grammaire de la phrase a l'air de dire que c'est Abraham qui écoute. Mais le Midrash, il entend, c'est Hachem qui écoute la voix de son serviteur, c'est-à-dire la voix d'Abraham. Alors, le travail du Midrash est intéressant. Enfin, le Midrash, il prend un verset qui dit « Abraham écoute la voix d'Éliézer » et le Midrash traduit « Akadosh Baruch Hu écoute la voix d'Abraham ». En fait, ce qui se passe, c'est que si on dit que c'est par Irat Shamaim qu'Avraham écoute la voix de son serviteur, ça n'a pas tellement de sens. Mi bachem yire Hashem shomea bekol avdo. Il faut dire que qui est-ce qui craint Hashem, qui est celui qui écoute la voix de son serviteur. Alors c'est vrai que c'est paradoxal. J'ai de la crainte, avoir de la crainte pour Hachem parce que Hachem est caractérisé comme étant celui qui écoute la voix de celui qui le sert. Parce qu'on pourrait dire qu'à partir du moment où Hachem écoute la voix d'Abraham, serviteur, alors Abraham, il n'a pas à le craindre, puisqu'Hachem l'écoute. Mais justement, Abraham le craint parce qu'Hachem, enfin, bien qu'Hachem l'écoute, bien qu'Hachem en fait l'écoute et qu'il pourrait s'imaginer qu'il, voilà, Hachem il fait ce que je veux. Donc je n'ai pas à craindre quelqu'un qui fait ce que je veux. Mais ensuite, il écoute la voix de son serviteur. Hachem écoute la voix de son serviteur, qui est quelqu'un qui vient de Mésopotamie, qui était dans la nuit complète, et qu'Hachem a sauvé cette nuit en l'éclairant. Donc, je récapitule. Avraham craint Hachem, qui l'écoute, lui, Avraham, alors que si Avraham a rencontré Hachem, c'est que Hachem était déjà venu à sa rencontre en l'éclairant quand il était dans les ténèbres les plus complètes, en Mésopotamie. Et donc, finalement, quand on dit il craint Hachem qu'il écoute, bien qu'il l'ait déjà, il a déjà fait énormément Hachem pour lui, parce qu'il l'a sauvé de, il l'a sorti de Mésopotamie en fait. Il l'a éclairé. Et ensuite il l'a éclairé partout où il est allé. Donc ça, il faut utiliser ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que il n'y a pas de présent, de passé, de futur. Le fait qu'Hachem ait sauvé Abraham et que par la suite il va l'éclairer en permanence, bah, néanmoins, Hachem écoute sa voix. Et du coup, lui, il craint Hachem bien qu'Hachem écoute sa voix. Donc ça veut dire qu'en réalité, le rapport, il est très confus, parce qu'on ne sait plus très bien qui domine dans cette affaire. Puisque Hachem a sauvé Abraham, et il continue de le protéger, et il écoute sa voix, Et Abraham le craint. Donc, ce n'est pas du tout une crainte d'Abraham parce que Hachem l'écrase en quelque sorte. Au contraire, Abraham craint Hachem, bien qu'Hachem lui ait déjà manifesté très clairement qu'il s'occupait de lui. Comprenez? Donc, la Yirat Hachem ici, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et quand on dit qu'il écoute sa voix, c'est ça qui nous intéresse ici dans ce Midrash. Parce que Eliezer demande à Hachem, Eloke Adoni Avraham, toi qui es le Dieu de mon maître Avraham, toi Hachem qui es le Dieu de mon maître Avraham, fais en sorte que je la rencontre aujourd'hui, que je la trouve aujourd'hui. Ça veut dire, il demande à Hachem, écoute ma voix. Ma voix, c'est la voix d'Abraham ici. C'est au nom d'Abraham que je te parle. Donc tu écoutes la voix d'Abraham, d'Abraham qui te craint. Qui te craint bien que, en fait, il pourrait penser qu'il n'a rien à craindre puisque tu l'écoutes. Donc c'est lui qui dirige, quoi. Mais Abraham ne se trompe pas. C'est pas parce qu'Hachem l'écoute qu'il est affecté en quelque sorte et qu'il serait moins puissant parce qu'il l'écoute. Chez les êtres humains, ce serait comme ça. Bon. On va pas craindre quelqu'un qui fait ce que je lui dis de faire. Mais ici, Abraham, il craint Hachem qui écoute ce qu'Abraham lui demande de faire. Et donc, il s'adresse à lui, il dit Hachem, tu es Eloke Adoni Avraham. Donc, je te demande, et a priori, tu écoutes ce que je demande au nom d'Avraham. Mais ça n'affecte pas du tout. Ça change rien. Et tu es toujours Hachem Elokav, le Dieu d'Avraham. Celui qui, le Seigneur de mon Seigneur, en quelque sorte. On est ici dans toutes sortes de si vous voulez bien, de toutes sortes de hiérarchies entremêlées en quelque sorte. Abraham, c'est mon maître. Toi, tu es son Dieu. Et néanmoins, toi, tu l'écoutes. Bien que tu l'aies déjà, en fait, écouté, c'est toi, en fait, qui l'a fait. Lui, il cherchait, il était dans l'obscurité, et tu l'as éclairé. Donc, s'il t'a trouvé, en quelque sorte, c'est parce que tu l'as éclairé, il a pu te trouver. Et du coup, il est fiable, il est fidèle, tu peux compter sur lui, et lui compte sur toi. Et toi, tu l'écoutes. Donc, on a vraiment tout un mélange très, très étrange ici, dans ce verset où il parle au nom il parle à Hachem, qui est le Dieu de son maître. Et le Midrash éclaire ça avec cette idée de Yirat Shamayim. Qu'est-ce que ça fait là-dedans dans l'affaire? Eliezer, ce qu'il demande, c'est écoute-moi. Écoute-moi par le mérite d'Abraham. Mais Eliezer, il décrit déjà, enfin, le Midrash fait comme si. Attends un instant, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Pas du tout comme tu crois. C'est-à-dire qu'en vérité, l'attitude d'Hachem à l'égard d'Abraham, c'est une attitude qui n'est pas l'attitude qui génère de la crainte, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de crainte, j'ai peur qu'il me fasse du mal. C'est une crainte révérentielle, c'est-à-dire c'est une crainte parce qu'il est tellement grand que le fait qu'effectivement il m'écoute, bon, ça ne diminue en rien sa grandeur. Il est malgré tout, il est tellement plus haut que moi, même s'il m'écoute. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la relation privilégiée que Abraham a avec Hachem, même si ça fait pas de lui son égal. Abraham, il est tout à fait conscient qu'il doit être Yiré Hachem. Donc, il ne lui demande pas de compte. Quand Hachem lui demande de la Keda, enfin de le sacrifice de son fils, il ne lui demande rien. Il ne demande pas. Il ne soulève pas un problème, mais tu m'as dit hier, tu m'as dit le contraire. Tu m'as dit que c'est lui mon futur. Et maintenant, tu veux que je le tue? Il ne demande rien du tout. La Yirat Hachem, elle ne vient pas du tout. Elle n'est pas du tout affectée. Il a une Yirat Hachem absolue. Abraham Avinu. Qui n'est pas du tout diminuée, si vous voulez, par le fait qu'Hachem est en bon terme avec lui, si on peut parler comme ça. Il l'a à la bonne. Hachem l'a toujours eu à la bonne. D'avoir un cher, une autre dracha sur ce même verset. Mibachem, Yiré Hachem, Zé Eliezer. Vous voyez, on continue avec cette histoire, de cette identification d'Eliezer à Abraham. La première lecture, on dit Mibachem, Yiré Hachem, Zé Abraham. Deuxième lecture, Mibachem, Yiré Hachem, Eliezer. Eliezer, dans toute cette affaire, alors que finalement, qu'est-ce qu'il est? Il est quelqu'un qui est envoyé pour chercher une épouse pour Yitzhak. On n'arrête pas de nous dire qu'il est comme Abraham. Shomea bekol avdo, bekol Abraham. Alors ça, c'est de quoi on parle, comment ça fonctionne ici. On dit mi, de qui on parle? D'Eliezer. Ensuite, on nous dit Eliezer, il écoute la voix de son esclave. Il écoute la voix d'Abraham. Shaya Eved la Kadosh Baruch Hu. Donc, Shomea Bekol Avdo, pas son Eved à lui, mais parce que Abraham est le Eved d'Hachem, alors Eliezer l'écoute. Il le craint. La crainte d'Eliezer par rapport à Abraham ne vient pas du tout du rapport entre Eliezer et Abraham. Il le craint parce qu'il voit qu'Abraham craint Hachem. Donc lui, il craint Abraham qui craint Hachem. Chez Neymar, Bavour Abraham Avdi, Asher Alach, Chashechim, pour Abraham qui a marché dans les ténèbres, Bachash Alach Lavi et Rivka. De nouveau, on retombe sur Eliezer. Quand il allait amener Rivka, Ven Nogalo, il n'y avait rien pour l'éclairer. Umi Ayameirlo, Akadosh Bokhu Ayameirlo, Zikim Uvrakim. Il y avait les éclairs. Iftar Beshem Hashem, Vishaen Beelokav. Il a confiance en Hachem, il s'appuie sur son Dieu. Vayomer Hachem Elokei Adoni Avraham. Il a dit Hachem Elokei Adoni Avraham, Hachem, Dieu de mon maître, mon Seigneur Avraham, Akrena Lefanai Ayom. Fait que je la rencontre aujourd'hui. Donc ici, c'est vraiment extrêmement compliqué. Parce que les drachot dans les deux parties, elles n'arrêtent pas de changer de sujet. C'est bien cette histoire. Abraham et Eliezer, c'est tout le temps la même chose. C'est la même chose. Comme si, j'ai dit d'emblée, j'ai dit que c'était son alter ego, mais peut-être que c'est même plus que ça. On a l'impression qu'il est presque devenu son double, quoi.